Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui avec la radio Toile Nationale, la radio de l'IEC. Nous avons aujourd'hui un invité très spirituel, c'est un journaliste, un documentariste, le président fondateur de Politikos. C'est un écrivain et c'est également un professeur d'université. Bonjour monsieur Jean-Michel Dian, veuillez vous
Bonjour.
Présenter.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre radio.
Et merci d'accepter en fait qu'on vous pose ces questions.
D'accord. Donc j'attends vos questions.
D'accord. Alors, tout d'abord, en fait, j'ai une question qui m'intriguait un peu. En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi en fait l'audiovisuel et pas écrire un livre ou un article ou quelque chose du genre? Vous croyez vraiment que un documentaire vous permettra de transmettre votre information plus facilement en...
En fait, je pense que le métier de journaliste aujourd'hui que j'exerce parallèlement à mon métier d'enseignant. Me conduit à faire à la fois des livres, à la fois des films et à la fois de la radio. Moi, j'ai toujours le sentiment que les supports sont au service d'un contenu. Et donc, quand j'ai envie de raconter une histoire, quand j'ai envie de faire une enquête, quand j'ai envie de faire un portrait, eh bien, selon les cas, et parfois c'est souvent les trois, j'utilise les trois supports. Donc, De Gaulle, comme beaucoup de Français, hein, il n'y a rien d'original. À un moment de ma vie, j'ai été amené à rencontrer des figures du gaullisme. Et en particulier, celui qu'on voit qui a été mon professeur, qui s'appelle Alfred Grosser, professeur à Sciences Po. Et un jour, je me suis dit, je ferai un film sur De Gaulle. Mais ce qui m'intéressait dans De Gaulle, c'était la fin de De Gaulle, que je trouvais tragique, qui correspondait à l'idée de la France, qui a besoin de conflits, ainsi de suite. Bon. Et donc... faire ce film, c'était un de mes tout premiers films, ça. Hein. Donc, il est assez ancien, en fait. Mais j'ai trouvé un plaisir fou. Surtout quand j'ai su qu'après, il y avait eu des milliers de gens à le voir à la télé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. On fait des films, on raconte une histoire, et en plus, on vous regarde.
Ça touche les gens.
Voilà. Alors, je me dis, plutôt que d'écrire un papier dans un journal, certes, toujours, il y a plein de bons journaux en France, mais... Au maximum, si vous écrivez un papier dans Libération, qui est quand même un grand journal, vous avez au maximum 15 000 lecteurs. 15 000, pas plus. Si vous faites la même histoire, que vous la mettez en musique, en images, en archives, en interviews, tout ça, vous avez 1 million de personnes. Donc la différence est énorme. Donc quand vous travaillez sur un sujet, c'est comme vous, quand vous faites quelque chose, vous avez envie qu'on vous lise, qu'on vous regarde et qu'on vous écoute à la radio. Donc j'essaie de faire quelque chose qui touche un maximum de public. C'est pas toujours, ça marche pas toujours, hein. Mais il y a des sujets qui prédisposent à l'audience. Et donc j'essaie, quand on me fait confiance, de faire un récit d'une histoire. Par exemple, sur Rimbaud. Je suis un fou d'Arthur Rimbaud, du poète. Eh bien, j'ai fait une émission qui a duré 12 heures sur France Culture pendant tout l'été il y a 2 ans. On aurait pu parler des manuscrits de Tombouctou, mais bon, Rimbaud, voilà. Et Rimbaud, ça me plaît. Je lui ai dit, bon sang, je ne vais pas m'investir sur Rimbaud, simplement pour une émission qui va être écoutée probablement par assez peu de gens. France Culture, c'est pas RTL. Hein. Mais, donc j'ai fait un film pour France Télévisions, et surtout j'ai écrit un livre chez Grasset. Et là, avec les trois, du coup, ça me permet de décliner une histoire d'Arthur Rimbaud, très différente à chaque fois, et en même temps de toucher un public plus large que si je l'avais fait seulement pour France Culture.
J'aimerais bien en fait rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que vous vous êtes intéressé à la fin de la vie de Gaulle. Mais pourquoi ne pas avoir débuté le film avec, disons, la période d'essor de ce président, avec son fameux appel du 18 juin en 1940 ? Pourquoi ne pas avoir mis peut-être une petite archive, un truc du genre ?
Voilà. Ça, en théorie, vous avez raison. Sauf qu'en pratique, quand vous faites un film, vous voyez déjà comment il faut ramasser une histoire en 52 minutes qui dure... La période que je traite, elle est d'une densité extrême. C'est 68. Vous vous rendez compte? Déjà, il y a eu 40 000 films de fait sur 68. Sur le référendum, il y a eu une douzaine de films. Sur la mort de De Gaulle, il y en a eu 40. Moi, je fais 3 sujets... Donc on ne peut pas, dans un film de 52 minutes, tout raconter. Et surtout, l'appel de juin 40, On l'a déjà raconté 100 000 fois. Oui, voilà. Et je ne pense pas que j'aurais été meilleur en racontant 101 000ème une fois. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Bon, voilà, c'est tout. Et puis, encore une fois, c'est un choix. D'abord, ça s'appelle, De Gaulle, la fin d'un règne. Donc, pour moi, la fin de règne, elle démarre en 68.
Avec mai 68.
Voilà, mai 68 et ce satané référendum dont tout le monde disait que c'était normal et qu'il a perdu, c'est bête parce qu'il voulait le gagner. Et dans mon fond intérieur, aussi parce que je suis politologue, hein, donc ma formation, c'est la science politique, j'étais amené à avoir un avis personnel. Et mon avis, c'est que De Gaulle ne voulait pas rester.
Donc il a prédit, en fait.
Voilà. Donc il fallait, pour valider cette hypothèse, que je rencontre des historiens crédibles pour me dire exactement la même chose que moi. Voilà pourquoi j'ai fait ce film.
Ok.
Alors, j'avais une question par rapport à la réalisation de ce documentaire, en fait. Vous, qui n'êtes pas journaliste de formation, qui n'êtes pas réalisateur de formation, bon, j'allais dire autodidacte même, quel est le déclic qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure qu'est la réalisation de ce documentaire?
Il y a eu effectivement un déclic. Parce que j'avais fait pour la chaîne Arte à ses débuts et la chaîne Histoire, on m'avait demandé en tant que journaliste d'interviewer des grandes figures politiques, Raymond Barre, Giscard d'Estaing, tout ça. Mais c'était un peu comme maintenant, j'étais là en train de poser, puis il y avait une caméra et tout ça. Et puis, le producteur qui a fait cette série, qui m'avait demandé en tant que journaliste, pas en tant que réalisateur, hein, de faire ce film, de faire cette interview, à la fin de la série, j'en ai fait 10, me dit « Mais pourquoi tu fais pas des films ?» Bah, je dis « Mais je sais pas faire des films, moi. Franchement, mais si, mais regarde, tu sais interviewer les gens. » Et puis surtout, je me souvenais pas, ils avaient fait un générique, la boîte avait fait un générique très bizarre, je trouvais que c'était idiot. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était idiot, et le producteur aussi. Donc, il m'a demandé de faire un générique, c'est-à-dire que de présenter au ralenti les personnes et tout ça. Et j'ai mis les mains à la pâte, parce qu'il y avait un monteur qui était extraordinaire, et qui me dit « Oh ben, tu veux, je t'apprends à monter un film. » Donc c'était vraiment en une heure, il m'explique comment ça marche. Et je trouvais ça génial. Je me dis « Si c'est ça, moi je veux bien en savoir un peu plus. » Et puis, comme le choix des archives, c'était moi qui le faisais, j'ai accepté de faire un premier film, sur le sujet de ma thèse de doctorat, qui était l'histoire de la politique culturelle de la France. Et comme Malraux, qui était le ministre de Gaulle, était au cœur de ce dispositif, j'ai fait un film sur la politique culturelle de la France, qui était en fait ma thèse. Et voilà. Après, je me suis dit, mais c'est génial, ça. Donc je continue. Puis voilà. Alors au début, c'était un peu pas génial. J'ai pas trouvé que mon film était super. Le deuxième non plus. Et puis celui-là, j'ai senti que c'était un... En tout cas... Je ne suis pas en train de me vanter, mais ça, on a une sanction tout de suite, c'est l'audience.
Ouais.
C'est-à-dire que, on peut vous dire c'est bien, c'est pas bien. S'il y a 1 million de personnes à le voir, c'est que c'est pas si mauvais. Voilà.
Ouais.
Ça se passe comme ça. Hein.
Ouais.
Au lieu d'avoir des profs, voilà, c'était des publics qui me disaient oui, c'est bien, non, c'est pas bien.
D'accord.
En fait, après, là, un jour après la visualisation de ce documentaire, ce qui a fait que j'ai accroché en fait dès le début, c'était le parti pris d'avoir commencé par mai 68. Et vu que, juste pour remettre dans le contexte actuel, en fait, c'est ça, c'est là que l'idée de cette question, en transposant un contexte actuel, on voit que la France n'est pas à l'abri d'un nouveau mai 68. Est-ce que vous ne pensez pas que la France et les Français se séparent peu à peu de cette vision de la 5e République dont De Gaulle était le père? Est-ce qu'ils s'en lassent pas un peu?
C'est une bonne question, c'est vrai. Je pense que la Ve République, elle est un peu dépassée par la manière dont on gère la démocratie. Voilà, la manière, c'est-à-dire les outillages qui permettent aux gens de s'exprimer. Et que l'extrême centralisation du pouvoir en France, malgré le fait qu'on ait plusieurs états, je l'ai dit tout à l'heure, de démocratie locale, mais le fait que l'actuel président de la République est encore plus centraliste que n'a été De Gaulle. C'est-à-dire, tout remonte à l'Élysée. Mais parce que nous sommes une monarchie contrariée en France, hein, on ne se remettra jamais de Louis XIV. Hein, donc on cherche notre petit Louis XIV toujours quelque part dans le présent. Et celui qui l'incarne, eh ben, il est gagnant.
D'ailleurs, voilà. Vous avez dit une phrase dans une interview, vous avez dit « Les Français aiment le pouvoir plus que la politique ».
Je vois que vous êtes bien documenté. Ouais. Oui, c'est vrai. On est passionné par le pouvoir en France. Dès qu'on voit, on voit des bagarres, on voit des stratégies, on est fanatique de ça. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, depuis cette incroyable hubris, comme on dit, savoir une espèce d'état second qui vous permet d'être hystérisé par les événements, eh bien, les Français cherchent à s'installer dans ce dispositif-là. Ils veulent sans arrêt de l'effervescence politique. S'ils n'en ont pas de l'effervescence politique, les Français sont hyper malheureux. Hein, et même quand il y en a, ils sont en plus malheureux. Ils ne sont jamais contents, en fait, les Français. Mais dans la politique, Macron, il est hyper critiqué, comme Hollande était critiqué, comme Sarkozy était critiqué, comme Chirac l'était. On l'oublie. Il est mort, Chirac. Mais vous vous souvenez peut-être pas, parce que vous êtes trop jeune, mais tous ceux que je viens de citer étaient hués, littéralement détestés, dès le troisième mois du pouvoir. Donc en fait, on aime détester nos dirigeants. Et la difficulté, justement, c'est comment arriver à gérer un pays en étant systématiquement dans le dénigrement permanent. Voilà, c'est notre état d'esprit qui est typiquement français, c'est de dénigrer en permanence. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des idées, hein, de construire des scénarios. Mais au fond, dès que s'installe quelque chose qui peut être à peu près correct, je peux vous dire, vous êtes flingué.
En fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, comme quoi la France est une monarchie contrariée, est-ce que cette obsession du pouvoir au-delà de la politique, est-ce que ce fait d'être admiratif des stratégies de jeu de pouvoir au-delà même de la politique en elle-même, est-ce que ça n'entrave pas le processus démocratique? Parce que si un jour la France ne trouve pas cette figure monarchique un peu à la Louis XIV, est-ce que la démocratie française n'atteindra pas son terme? Parce qu'on peut voir les résultats des taux de participation des élections. Est-ce que ça ne remet pas en question le modèle démocratique français?
Oui, tout à fait. Regardez un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui d'avoir une alternative crédible à Marine Le Pen. Bon. Alors, vous avez connu en Tunisie les despotes éclairés. Nous, on ne sait pas s'ils sont éclairés, hein, les nôtres. Hein, mais la réalité... Hein, ouais, mais le problème aujourd'hui, c'est que la tentation régulière d'en venir à l'autorité, parce que précisément, c'est le bordel ou le désordre, ce qui est faux, parce que ce n'est pas si bordélique que ça. Ça marche assez bien. Mais encore une fois, ce potentiel de dénigrement falsifie la réalité. Voilà. Et les réseaux sociaux nous empêchent de penser. Voilà. Donc comme on nous empêche de penser, les gens ont peur. Ils ont peur de tout. Et les populistes, aussi bien au Brésil qu'aux États-Unis ou qu'en Hongrie ou ailleurs, ne sont que le résultat d'une absence de pensée. Hein? Et au fond, en France, on est victime exactement du même problème, comme c'est le cas au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est-à-dire que on a l'impression de faire de la politique au jour le jour et que la stratégie qui consiste à avoir de la vision, c'est avoir des stratégies visionnaires, est inopérante. Et ça crée de l'angoisse. La population est angoissée, les gens sont angoissés et du coup, c'est difficile de diriger un pays. Voilà. Donc on peut gueuler sur Macron, mais sauf que si c'est pas Macron, c'est Le Pen. Et le système démocratique est en péril à cause de l'aspect binaire de la situation. Et effectivement, on n'est pas loin de ne pas s'en remettre. Voilà. Donc faut être vigilant. Il faut rester sur le fond des choses, qui est de dire il faut se respecter. On peut avoir des bagarres. Regardez, 68, c'était quand même terrible. Hein, on en l'oublie. Hein. Mais en même temps, faut penser à ce qu'on aura si on n'accepte pas de changer ce qui existe déjà. Voilà.
Donc, on vous remercie pour votre présence. On vous remercie pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour répondre à nos questions.
D'ailleurs, ce soir, on va projeter votre film à l'Agora. Ouais.
Bah, venez, revenez.
Avec plaisir.
Pour ceux qui n'ont pas pu venir, qui étaient pris.
Et donc, on vous invite à partir regarder le film ce soir.
Je suis sûr que notre audience sera très intéressée.
Oui.
En tout cas, merci à vous parce que vous posez des bonnes questions. Hein. Je dois admettre que je serais très content d'être journaliste. Merci.
Merci.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.